Chapitre 9. Le capitaine Ravièse arborait une moustache gigantesque. La proéminence poilue d'un brun terreux mangeait la totalité de sa lèvre supérieure et s'étirait en pointe de fouet entretenue avec une laque spéciale. L'élégance d'Hercule Poirot sur la carcasse de Clint Eastwood. Ravièse se revendiquait d'un carquois pur et dur, friand de bière et de carnaval. Mais une fois ses 100 kilos comprimés sous son uniforme de flic, il dégageait la froideur d'une falaise. Le genre de type à éviter, si possible. Il grillait une roulée à l'entrée du confinement qui abritait la mort. Comme à son habitude, il brilla d'éloquence. « Je vous ai vu interroger le Lillois. Qu'est-ce que tu fiches ici, Enbel ?»« C'est moi qui l'ai amené, capitaine. Une entreprise a été taguée à une dizaine de kilomètres d'ici, alors on a fait un petit détour. Vous êtes seul ? J'attends les collègues de la brigade canine. » Le commissaire est parti pour l'autopsie de la fillette et Colin interroge la mère. On a lancé l'enquête de proximité. Ça l'a fait pour une veille de Noël. Il écrasa sa cigarette à peine entamée sous sa botte de cuir. Ses doigts tremblaient. De froid ou de nervosité? Qu'est-ce qu'on a? Osa Norman. D'après le technicien de la scientifique, Cunard aurait été renversé. Le capitaine hésita, releva le col de sa veste polaire et lança. Reste dehors, Enbel. Norman et moi allons. Capitaine! Je ne l'ai pas amenée ici pour qu'elle fasse le piquet. Elle va travailler sur l'affaire. Ravièse déshabilla Lucie d'une onde visuelle. Tu sais pertinemment que l'accès aux scènes de crime est réservé aux officiers de police judiciaire, n'est-ce pas, Enbel?
Oui, mais je sais aussi que 3 cerveaux carburent mieux que 2.
Ravièse agita la bouche de droite à gauche, comme pour un rinçage de dents. Une chance pour toi qu'il y ait plus grand monde. Bon, suivez-moi. Les Lillois ont terminé la cartographie et leur relevé depuis l'aube, mais marchaient quand même sur les planches. Enbel et Norman échangèrent un regard crispé au moment où l'attaque d'halogène à batterie leur écorcha les rétines. Des diamants de poussière vibraient dans l'air en une pluie désordonnée. Le bâtiment résonnait comme une carcasse meurtrie, une tombe muette, abandonnée aux ravages du temps. Norman frissonnait, à l'opposé de Lucie qui bouillait intérieurement. « On a retrouvé le corps de la petite ici, sous cette fenêtre », commenta le capitaine. Il se posta à proximité d'une silhouette ancrée, l'esquisse d'une vie arrachée. Marque quasi invisible de strangulation, aucune trace de pénétration ou de sévices particuliers. Avec les variations de température nocturne, le légiste a peiné pour estimer l'heure de la mort, entre minuit et 3 heures du matin, selon lui. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce bâtiment doit être abattu, il servait à stocker des bobines de câbles. La mère a appelé au commissariat à 3 heures du matin, inquiétée par l'absence de nouvelles de son mari. Le couple devait remettre une rançon 2 heures plus tôt, à cet endroit précis. Ravièse se pencha vers la fenêtre. Ses traits se crispèrent sous les aplats de lumière. La femme de Cunard achète et vend des entreprises dans le textile. Elle a licencié plus de 110 employés en moins d'un an. On la prétend froide comme la mort, sans pitié pour l'emploi. Elle et son mari reçoivent sans cesse des lettres de menaces, des appels à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Hommes, femmes, même des enfants. Un bon point, ça nous oriente vers des premières pistes de recherche. Que donnent les prélèvements de la scientifique ? Demanda Norman. Ravièse contracta les mâchoires. C'est plus que louche, du jamais vu. Des tonnes d'empreintes digitales, mais aucune exploitable. Comment ça ? Les traces sur la vitre, le sol et la poignée d'entrée ont été aspergées de cyanoacrylate de méthyle. Le colorant fluorescent a réagi, ce qui prouve la présence de graisse et que, par conséquent, l'assassin ne portait pas de gants. Et pourtant, l'empreinte résultante ne possède aucune crête papillaire. Il n'y a que le contour des phalanges, partout, comme les marques d'un fantôme. Norman se rapprocha de la vitre crasseuse, l'air abasourdi. À quoi ça rime? À ma connaissance, il est impossible de ne pas posséder de sillons digitaux. Ils nous suivent de la naissance à longtemps après la mort. Sauf si l'assassin a les mains brûlées ou un truc du genre, compléta Lucie. Ravièse acquiesça. Ce n'est pas la seule bizarrerie, ajouta-t-il. On nage en plein délire. Au travers des filets de poussière, Enbel et Norman se mirent d'accord d'un mouvement de sourcils. Le capitaine n'était pas dans son assiette. Le corps était disposé d'une façon, comment dire, étrange. La fillette était assise sur le sol, les jambes légèrement écartées et les mains entre les cuisses. Les cheveux parfaitement coiffés avec une raie au milieu. Malgré le froid, elle ne portait pas de blouson, juste une robe de chambre fine comme de la cellophane. Sa peau, ses vêtements puaient le cuir. Une odeur imprégnée, tenace. Quand je suis arrivé,
Secoué d'un frisson qu'on pouvait aisément imputer au froid, Ravies compléta.
J'ai eu l'impression que la petite était vivante. Elle souriait, les yeux grands ouverts et la tête tournée dans ma direction, comme un pantin effrayant.
Le cœur de Lucie s'emballa. Il y avait dans cette scène de crime une dimension qu'on ne pouvait pas trouver dans les livres. Le ressenti, cette sensation d'extrême froideur qui vient vous comprimer les poumons, et par-dessus tout, la douloureuse impression d'arriver trop tard. Elle baissa les paupières.
Un sourire, une raie sur les cheveux. Tu as donc pris la peine de créer un impact fort. Tu ne t'as pas suffi. Il fallait que tu rajoutes ta petite touche personnelle.
Vous saviez que l'enfant était aveugle de naissance ? Reprit Ravies.
Une dysplasie septo-optique. Moins de 400 cas dans le monde, d'après le légiste. Une méchante maladie orpheline.
La jeune femme glissa le menton sous le col de sa parka, tandis que Norman explosait.
Une enfant handicapée. Il s'en est pris à une enfant handicapée. Elle n'aurait jamais pu l'identifier. C'était gratuit, putain !
Le capitaine Ravies se lissa la moustache du bout des doigts pour en chasser les gouttes de condensation.
La colère, la vengeance, voilà ce qui a poussé ce monstre à agir. Envers Cunard, à cause de l'échec. Imaginez un peu. Vous êtes à deux doigts de réussir. Cet argent frissonne déjà entre vos doigts, et là se produit l'impossible. L'homme censé vous remettre la rançon se fait renverser. La suite est simple à imaginer. À ton avis, Enbel ?
Lucie s'intercala entre les deux hommes.
Deux solutions s'offrent au chauffard. Ou fuir, ou s'arrêter. Sa conscience lui ordonne de sortir de son véhicule. Le type sur le sol est salement amoché, peut-être mort. Même si le conducteur se décide à appeler une ambulance ou la police, un élément va remettre en cause sa façon de penser. Le magot qu'il découvre à proximité du corps. Les dés sont jetés, plus d'hésitation. Il ne prévient pas la police et prend la fuite. À ce moment, le ravisseur voit rouge. Ses rêves s'écroulent d'un coup. Plus d'avenir. Alors il s'approche de la petite et lui serre la gorge.
Quelle est ta théorie sur la disparition du corps de Cunard ?
Je n'en sais rien. Qui l'a embarqué ? Le tueur ? Le chauffard ? Trop risqué. Dans ce genre de situation, à mon avis, on prend l'argent et on fuit le plus loin possible sans se retourner.
Norman intervint.
Le type de la scientifique assure que le sang de Cunard a été essuyé, que des morceaux de phare ont disparu. Les optiques, même à l'état de débris, permettent d'identifier un type ou une marque de véhicule, et notre chauffard devait le savoir. Il a voulu limiter les risques d'identification, décidant alors d'effacer les traces de son passage. Il emporte aussi le corps pour s'en débarrasser plus loin, le tout au nez et à la barbe du ravisseur.
C'est aussi mon point de vue, appuya Ravies. Quant aux lunettes, elles ont atterri loin du lieu d'impact et il ne les a pas vues. Je dirais que notre chauffard est réfléchi, organisé et franchement culotté. Quant au fait qu'il roulait feu éteint à grande vitesse sur une voie sans issue, je ne vois pas d'autre solution que la course-poursuite.
Ou alors, un type qui veut impressionner sa nana et qui vient tester ici la puissance de sa voiture, ajouta Lucie. Ou un chauffard pressé avec des phares hors d'usage, paumé dans la zone industrielle. Les raisons peuvent être multiples.
Un bon merdier, en tout cas, s'exclama Ravies.
Des aboiements de chiens claquèrent.
La brigade canine, fit-il en oscillant sur les planches. Les truffes vont retracer le chemin emprunté par Cunard et nous confirmer la théorie du corps embarqué. Norman, il faut contacter la gendarmerie et solliciter leur plongeur de la brigade nautique. Si le chauffard vous laisse débarrasser du corps, il a dû l'abandonner dans le lac du Puitou, coule bassin maritime. Enbel, prends la voiture et rentre au commissariat. Appelle les assurances et les garages des environs. Relève l'identité des personnes qui ont signalé un véhicule endommagé sur l'avant. Tu me travailles aussi les types de la scientifique pour qu'ils m'envoient par fax leurs premières conclusions, même des esquisses, le plus vite possible.
Il désigna une camionnette plantée le long d'une voie perpendiculaire.
La presse est déjà au courant, pas un mot surtout. Et préparez-vous à allonger vos journées. Dans moins d'une heure, des préfets, des ministres, des divinités parisiennes vont nous tomber sur le dos parce qu'il s'agit d'un meurtre d'enfant. Il faudra assurer.
C'est parti.
Lucie gratifia le capitaine du mouvement de menton réglementaire. Récupéra les clés et les papiers du véhicule avant de disparaître. Elle bouillait intérieurement. Sa première scène de crime et des responsabilités la même journée. Des lectures théoriques qui se matérialisaient. L'appel du sang. Un meurtre tordu. Avait-on exaucé ses prières ? Elle s'injuria mentalement. Comment pouvait-elle, à cet instant précis, ressentir une forme de plaisir alors qu'une enfant handicapée venait d'être assassinée ? Alors qu'elle sortait de l'arène de sa mise à mort ? En route pour les brumes perpétuelles de Dunkerque, elle se concentra sur les prémices de l'enquête. Elle devinait déjà les manchettes des journaux.
Meurtre sauvage d'une petite aveugle, strangulation, le commissariat de Dunkerque en ébullition. La colère. Selon Raviez, la colère avait contraint le meurtrier à frapper, à poser ses doigts déterminés sur la gorge tendre.
Elle souriait, les yeux grands ouverts.
Pourquoi avoir placé le corps contre le mur, dans une position propre, ordonnée? Pourquoi ce sourire sur les lèvres d'une fillette emportée par la souffrance? Lucie pressa son volant avec amertume. Il manquait les photos de la scène, le rapport d'autopsie, les analyses biologiques, toxicologiques qui tomberaient bientôt. Des éléments essentiels auxquels elle n'aurait pas accès à cause de la barrière du grade. Mais rien ne pouvait lui enlever de la tête que le raisonnement de Raviez clochait. Le meurtre n'avait rien de désorganisé. Elle poussa un carré de chocolat sur sa langue.
« Tu te fais trop de films. Qui se mutilerait le bout des doigts pour éviter de laisser des empreintes digitales? Mais alors, cette absence de sillons digitaux, ce... »
D'un coup, elle écrasa la pédale de frein et opéra un demi-tour serré. Un courant glacial lui courait le long de l'échine. Glacial, mais agréable. Le capitaine se détacha d'un groupe de gendarmes lorsqu'il vit la torpille blonde accourir dans sa direction.
« Enbel, qu'est-ce que tu fiches encore ici ?»
Lucie chercha son oxygène.
« Vous disiez que la petite souriait, n'est-ce pas? Quel type de sourire? Discret? Bouche ouverte? Lèvres serrées? Montrez-moi. »«
À quoi tu joues? Montrez-moi, capitaine. »
Tu m'agaces. Je te dis que c'est un sourire. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Lorsque votre cerveau ne contrôle plus vos muscles zygomatiques, pendant le sommeil par exemple, votre bouche se distord naturellement. Mais le fait de sourire impose un effort prolongé de nombreux muscles, qui ne peut être maintenu lorsqu'une personne est morte.
Je sais bien. Il est clair que notre assassin a placé les lèvres de cette façon juste après la mort, et que la rigidité cadavérique a fait le reste.
Dans ce cas, on devrait éliminer l'hypothèse de la colère. La colère est une pulsion brève et incontrôlée. Une fois celle-ci dissipée, les assassins regrettent très souvent leurs actes. Ils cherchent à tout prix à fuir, à se débarrasser de ces images de violence qui leur hantent l'esprit.
Le capitaine fit signe au lieutenant-colonel de gendarmerie de patienter.
Arrête ton baratin de bouquin avec moi. Colère et vengeance, rien d'autre. Volonté de choquer, de blesser plus encore suite à un accès de rage.
Ce que vous dites est contraire au assez.
Retourne au commissariat et fais ce que je t'ai dit.
Lucie ne se laissa pas impressionner. Il fallait aller au bout.
À vos ordres, capitaine. Mais vous savez que la rigidité cadavérique débute au minimum une heure après la mort. Une heure, capitaine. Il lui a maintenu la bouche pendant une heure dans le plus grand calme, alors qu'un chauffard s'envolait avec son argent. 60 minutes, nez à nez avec un cadavre de fillette, aux yeux grands ouverts.